Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 mars 2022 et puis on continue toujours un peu dans notre phase de digestion. Hier, on a vécu une journée encore assez tranquille. Il fallait faire pas mal de choses, il y avait pas mal de choses à gérer. On est toujours bien entendu très 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 focus sur l'Ukraine, très focus sur les taux d'intérêt et puis très focus sur cette économie qui redémarre ou qui ne redémarre pas. Cette inflation, ces risques de stagflation ou de pas stagflation. Bref, on se pose plein de questions, on a très peu de réponses, mais en tous les cas, on essaie de naviguer toujours autour de toutes ces informations qui nous tombent dessus. Alors effectivement, le maître mot hier, c'était les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de neuf, il y a un peu tout et n'importe quoi qui arrive, donc il faut quand même bien savoir que c'est toujours un petit peu dans les milieux autorisés qu'on s'autorise à penser qu'il y aurait peut-être des trucs qui se passerait dans le bon sens entre la Russie et l'Ukraine. Il y a pas mal de rapports un peu contradictoires. D'un côté, on dit que ça va mieux, de l'autre, on dit que ça reste quand même vachement tendu. On voit un petit peu plus clair sur ce que Poutine voudrait avoir. En gros, ce qu'il veut, c'est que l'Ukraine soit un territoire occupé et puis que le russe soit la langue nationale quasiment. Enfin bref, et surtout, que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Ce qu'on peut à la limite peut-être comprendre de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, eh bien Zelensky fait gentiment des concessions. Donc pour l'instant, ça permet au marché de tenir encore relativement bien le coup. La bonne nouvelle, c'est qu'on parle plus trop d'un conflit qui dégénérerait en conflit atomique. Donc vous pouvez déjà ramener vos pastilles d'iode à la pharmacie si vous avez réussi à en trouver. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça a l'air de se calmer. Les choses reviennent un peu à la normale, la volatilité redescend gentiment. On peut espérer qu'on va revenir quand même à un monde un tout petit peu plus logique. C'est en tout cas le sentiment que ça donne, parce que quand on regarde un petit peu les médias, eh bien, il y a moins de guerre en Ukraine en première page. Alors, on en parle toujours, bien sûr, ça reste le sujet principal, mais quand même, on sent que ça se calme un tout petit peu. Il faut dire que de l'autre côté, on a le Covid qui remonte, qui arrive de nouveau. On a pas mal de bruit autour de tout ça de nouveau, puisqu'on est en train de réinterpréter certains variants. Il y a de nouveau des contaminations qui repartent un petit peu partout. Donc là aussi, il y a pas mal de soucis. Donc ça met un petit peu, ça mélange un petit peu avec l'alternative de l'Ukraine. Mais globalement, on a l'impression qu'on vient un petit peu à la réalité, parce que j'ai même trouvé des articles aujourd'hui où on parlait un petit peu des titres individuels, des fondamentaux des sociétés. Et puis du coup, on arrive quand même à parler un petit peu d'autre chose, qui n'est pas plus mal. Néanmoins, ce qu'il faut retenir hier en Europe, c'est que le marché n'a pas fait grand-chose, puisque quand on regarde les indices européens, plus ou moins entre -0,3 plus 0,3, on va dire que l'un dans l'autre, c'était flat un peu partout en Europe, les uns s'annulaient mutuellement. Ce qu'il faut retenir en Europe surtout, c'est qu'évidemment, on a dû digérer la hausse des taux de la Fed de mercredi toujours. On continue toujours dans cette logique de dire, mais comment est-ce qu'il faut le prendre? Comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Pour l'instant, on le gère plutôt pas mal. Ce qui est surtout bizarre et intéressant au niveau de la Fed dans cette thématique globale, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'intégrer le fait que la Fed sait exactement ce qu'elle va faire pendant les 24 prochains mois. C'est plus de questions par rapport à ça. On parle déjà, je suis tombé sur un article aujourd'hui, c'est complètement irréel. Je crois que c'était dans le Barron's, où les mecs, ils disent, maintenant qu'on sait que la Fed va monter 11 fois les taux durant les 24 prochains mois, on voit un peu plus clair. Alors, je trouve ça absolument phénoménal. Alors, j'ai beaucoup parlé de la Fed hier, donc je vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet ce matin, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les mecs, ils ne... Alors, juste remettons les choses dans leur concept. Il y a 4 mois en arrière, Monsieur Powell a commencé à admettre que son inflation transitoire et contrôlée, c'était du bullshit. Donc, du coup, là, il sait plus. Maintenant, là, tout de suite, le mec, il y a 4 mois en arrière, il était incapable d'avoir une vision à 3 semaines. Mais maintenant, là, on est en mars, il a une vision à 24 mois, on parle de 11 hausses de taux à suivre que tout le monde attend maintenant, et maintenant on lui fait confiance. Donc le mec avant, il était faux, il a rien compris, il a rien capté, il s'est vautré avec toutes les informations qu'il avait. Aujourd'hui, la situation géopolitique, économique, macroéconomique, tout ce que vous voulez, c'est encore plus complexifié par rapport à ce qu'elle était il y a encore 4-5 mois en arrière. Je rappelle qu'il y avait au moins déjà, il n'y avait pas de guerre. Et donc là, tout de suite, le mec, il voit beaucoup mieux que ce qu'il voyait il y a 4 mois en arrière, et tout le monde semble trouvais ça absolument normal. Bon, ça, je trouve ça assez fabuleux. Enfin bref, c'est comme ça, hein, les marchés sont ce qu'ils sont, la psychologie des marchés, on va pas les réinventer. C'est toujours la même chose, hein, quand on dit, quand on voit certains mouvements de marché, certaines périodes de marché, certains comportements des marchés, bien on se dit que si le marché lui-même était un patient, était un être humain, eh bien ça fait longtemps qu'il serait en psychiatrie dans une camisole de force. Donc au milieu de tout ça, eh bien on a l'Europe et les États-Unis qui doivent naviguer avec les décisions de la Fed, mais aussi avec un petit peu tout ce qui se passe au niveau du pétrole, bien sûr, parce que ça reste un des trucs principaux. Le pétrole qui continue à être pas mal secoué, donc on a eu une forte hausse hier. Alors la forte hausse sur le baril était principalement due au fait que finalement, on se rend compte que les négociations avec l'Ukraine n'allaient pas si bien, qu'il y avait de nouveau des tensions un petit peu, donc boum, on a repris directement quasiment 10% dessus. La problématique, quand on reprend 10%, c'est que tout le monde est en train de se dire « Ah, 10%, ça veut dire qu'on est au-dessus des 100 dollars. Si on est au-dessus des 100 dollars, qu'est-ce que ça veut dire ?» Récession. Donc il y a un stress latent, mais néanmoins hier on a quand même réussi à relativement bien se comporter aux États-Unis et à s'en sortir principalement parce que finalement la hausse du pétrole a été un petit peu offsetée par le fait que la Russie a remboursé deux coupons sur des obligations qui arrivent à échéance, ce qui veut dire que pour l'instant la Russie n'est pas en défaut de paiement et ça motivait le marché au top du top. Ça motivait le marché au top du top parce que quoi qu'on veuille bien en dire, c'est un stress que la Russie puisse se mettre en défaut. Donc c'est un tout petit peu antinomique parce que finalement aujourd'hui, la plupart des alliés, des pays alliés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'essayer de mettre la tête sous l'eau à Poutine pour qu'il se retire d'Ukraine. Donc on est en train de lui mettre la misère économiquement en mettant des sanctions dans tous les coins. Et puis maintenant, tout d'un coup, on a peur qu'à force de le tenir sous l'eau, le mec il respire plus. Donc forcément, il y a des risques, ça c'est clair. Mais donc du coup, comme hier ils ont payé leurs coupons, ça a soulagé le marché américain et du coup ça a permis de pas trop se stresser par rapport au fait que le baril remontait de nouveau au-dessus des 105 dollars, puisque ce matin le WTI est à 105,50 et que le Brent est à 109 et des poussières. Donc on est de nouveau reparti au-dessus des 100 au niveau du baril. Ce qui est assez intéressant au niveau du baril, c'est que de toute façon tout le monde va de ses prédictions. Alors aujourd'hui on a un grand nom de la finance qui est arrivé et qui a dit attention, de toute façon le baril va à 200 dollars parce qu'il n'y a plus assez d'offres derrière, donc c'est fini cette époque du pétrole facile. De toute façon, même si la guerre en Ukraine s'arrête demain, même si tout le monde roule avec des voitures électriques, de toute façon, le baril va aller à 200 dollars. Et le monsieur qui a dit ça, c'est monsieur Pierre Endurant. Alors, ce qui est rigolo avec monsieur Pierre Endurant, c'est que c'est un hedge fund manager qui est spécialisé dans les commodities. Et donc là, aujourd'hui, il débarque out of nowhere, depuis nulle part. On n'a plus entendu parler de lui depuis des mois et des mois. Et tout d'un coup, il vient nous planter un target à 200 dollars sur le baril. Alors forcément, tout le monde dit « Ah, mais si Endurant, il pense que le baril, il va à 200 dollars, c'est certainement qu'il sait quelque chose que nous, pauvres mortels, on ne sait pas. » Eh bien, oui, peut-être que c'est ça. Mais simplement, j'aimerais juste remettre un tout petit peu l'église au milieu du village, parce que je sais qu'on a une mémoire extrêmement courte et qu'on se souvient à peine de ce qui s'est passé lundi dernier. Mais ce qu'il faut quand même savoir sur monsieur Pierre Endurant, c'est qu'en 2018, monsieur Pierre Endurant, quand le baril valait 75, 76 dollars à peu près, il est arrivé la gueule enfarinée déjà à la télé pour dire « Oui, moi je pense que le baril il va à 200 dollars parce qu'il n'y aura plus assez d'offres, blablabla. Je suis long comme une truie parce que je pense que le baril va exploser, ça va être superbe. » Et puis bah, directement derrière, à la même période, le baril il est passé de 75 dollars à 44 dollars et depuis on n'a plus trop entendu parler de lui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir raison garder, bien sûr, et puis il faut aussi comprendre que des fois, ces mecs-là, ils se gourrent, même souvent, en fait. Simplement, c'est plus une question d'ego, c'est une question de venir à la télé, pouvoir dire « Ouais, moi j'ai une idée, j'ai un truc à dire ». Et comme j'ai déjà dit moult et moult fois dans ces vidéos, eh bien, de toute façon, si vous dites n'importe quoi régulièrement et qu'une fois vous avez raison, le marché, il est assez capable et assez gentil et assez tolérant pour vous se souvenir que vous aurez dit une fois quelque chose de juste et d'oublier tous les nombres de fois où vous avez dit des trucs complètement ridicules. Alors, si moi je vous dis que le pétrole, il retourne à 10 dollars tous les matins pendant 2 ans, et puis qu'un jour, pour une raison XY, le pétrole retourne à 10 dollars, ils vont dire « Ah, mais Thomas, il avait raison, est-ce qu'il a dit que le pétrole irait à 10 dollars ?» Oui, ça fait 2 ans que je suis faux, mais j'étais juste une fois. Eh bien, monsieur Pierre Endurant est revenu hier pour dire que le pétrole, il va à 200 dollars. C'est pas la première fois qu'il se gourre. Si on résume tout ça, aujourd'hui, on a la hausse du pétrole à digérer, on a toujours la guerre entre les Russes et les Ukrainiens à digérer, on a le fait que hier, la banque centrale anglaise a monté les taux de 0,25%, ça a mis un peu de pression sur les marchés européens, mais c'était pas non plus le truc le plus préoccupant. Et puis, ben, à côté de ça, pour le reste, eh bien, on essaie de continuer à gérer le marché comme on peut au jour le jour et au fur et à mesure. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est quand vous regardez les graphiques du S&P 500 et du Nasdaq, que vous allez voir arriver au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que les canaux descendants dans lesquels nous sommes depuis un petit peu de temps maintenant, depuis quasiment le début de l'année, eh bien le Nasdaq qui est déjà sorti hier de ce canal descendant et a encore renforcé sa position hier soir, et le S&P est sorti également de son canal descendant. Alors évidemment, un canal descendant sur un graphique, c'est toujours une interprétation personnelle, c'est la mienne, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas on voit que ces deux graphiques sont en train de sortir. Alors c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que cette tendance baissière a l'air de s'interrompre pour le moment. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le momentum est quand même un tout petit peu fatigué. Ça fait quand même quelques jours qu'on rebondit relativement bien et qu'on est relativement en contrôle. Donc, ça pourrait avoir aussi un double effet qui se coule. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que si ce soir, le S&P 500 termine un tout petit peu plus haut, ne serait-ce qu'une hausse de 0,3%, on pourra dire, sur une base hebdomadaire, le Nasdaq et le S&P 500 sont sortis de leur tendance baissière. Je vous disais au début de cette émission, on commence à parler d'autre chose qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors déjà, on peut noter les chiffres de GameStop. Vous vous souvenez de GameStop, hein, la société de jeux vidéo qui vendait des jeux vidéo dans des magasins, qui a été une des sociétés complètement délirantes de l'époque des Wall Street Bets. Eh bien, GameStop a publié des chiffres hier. Le marché attendait 0,80 cents de profit par action. Ils ont annoncé une perte de plus de 2$ par action. Youpi, bien joué les gars, donc complètement à côté de la plaque. Le titre perdait 10% hier soir after close, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même annoncé qu'ils allaient créer une place de marché pour vendre des NFT, donc du coup ça amortit un peu les chiffres dégueulasses qui viennent de sortir hier soir. Je rappelle quand même que GameStop, ça vaut pas grand chose de fondamentalement, mais ça serait quand même encore aujourd'hui pas loin des $80. Donc méfiance quand même, mais on reparle un tout petit peu de GameStop, mais c'est pas dans le bon sens parce que chiffre pourri, mais plateforme de NFT chez GameStop. Autrement, je parlais du Covid tout à l'heure, eh bien oui, le Covid repart, les contaminations repartent, on en parle un petit peu partout, les Américains sont en train de flipper parce que comme ça repart en Europe, ils savent que statistiquement, 2 semaines plus tard, c'est chez eux, donc on reparle d'augmentation des cas Covid. La France s'est libérée il y a 2 jours ou 3 jours des masques et des passes sanitaires, mais ils sont déjà en train de dire, vous faites attention, vous faites ce que vous voulez, mais vous touchez pas, vous embrassez pas, vous serrez pas la main, restez à distance, sortez pas de chez vous, mais faites ce que vous voulez. Donc on reparle beaucoup du Covid, et dans la foulée, Moderna, donc après Pfizer, sont aussi en train de demander l'autorisation pour la 4e dose de vaccin. Donc on revient un petit peu dans cette thématique vaccin Covid. Hier encore, Pfizer se comportait très bien, donc on voit que la thématique repart un petit peu de ce côté-là, sans compter qu'en Asie, tout ce qui est Chine et Hong Kong, eh bien ils font toujours des scores assez spectaculaires en termes de contamination et en termes de confinement également. Donc le Covid est en train de revenir par la porte de derrière de plus en plus. Et puis on terminera avec un message d'espoir, j'ai envie de dire, puisque le stratège quantitatif de JP Morgan, je sais pas trop ce que ça veut dire stratège quantitatif, mais moi j'aimerais bien avoir sur ma carte de visite Thomas Veillet, stratège quantitatif. Et donc en fait, le stratège quantitatif de JP Morgan a déclaré hier que après une correction de près de 80% sur les titres des nouvelles technologies, en gros les titres de Madame Katie Wood dans ARK Invest, il était temps de commencer à les racheter. Donc là, vous avez devant vos yeux la liste des holdings principaux de Katie Wood. Donc évidemment Tesla, Roku, Teladoc, Zoom Video, Coinbase, Unity Software, Spotify Technology, Twilio, Exact Science et UiPath. Donc c'est les positions à la fin de l'année 2021. Mais donc dans les commentaires qui ont été faits hier soir et cette nuit à Wall Street, eh bien le stratégiste quantitatif de JP Morgan pense qu'il est temps de revenir dessus. Et c'est vrai que quand on regarde le graphique de certaines et la claque qu'elles se sont prises dans la figure, eh bien on peut dire qu'effectivement il y a un potentiel de rebond relativement intéressant. Pour autant. Que tout se passe bien à côté dans le reste du monde. Donc du coup, on a un petit peu d'espoir de ce côté-là, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir. Ça fait du bien d'avoir aussi des bonnes nouvelles, mais surtout des bonnes nouvelles qui parlent de société et de trucs un peu plus intéressants que la macro, la géopolitique et la géopolitique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager et d'en parler autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve de toute façon tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau Swiss Bliss, un update du marché suisse, comme d'habitude, comme tous les vendredis. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi matin, même heure, même endroit, comme d'habitude. Bye bye.